J'aimerais qu'on lise un premier passage dans Genèse 2, verset 17, et ensuite dans Luc 11, à partir du verset 14. Genèse 2, je vais juste reprendre un petit peu à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ensuite, donc, Luc 11, verset 14, et à partir du verset 14, et jusqu'au verset 23. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le péché originel, le péché d'Adam et Ève, a provoqué deux changements majeurs dans le cours de l'humanité. Un changement dans la génétique spirituelle et l'installation de la glorification d'une entité spirituelle, n'est-ce pas, de Satan, qui s'est mis en concurrence avec notre Dieu, avec le Créateur. L'humanité est donc devenue beaucoup plus sensible aux influences et à la tentation qui vient de Satan et de ses démons, et de plus en plus insensible à la voix et à la volonté de Dieu. Adam et Ève ne sont pas subitement devenus athées, ni incroyants. Mais ils sont devenus, j'ai inventé un mot pour ça, inconfiants. N'est-ce pas ? Ils ont perdu la foi, la confiance qu'ils avaient en Dieu au moment où ils ont péché. Et Dieu leur a dit, si vous mangez de ce fruit, il n'a pas dit, je vous ferai mourir. Il a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Ce n'est pas directement la désobéissance qui fait mourir, mais c'est la consommation qui fait mourir. Moi-même, lorsque j'étais enfant, mes parents m'avaient interdit de fumer des cigarettes. Enfin, vos parents aussi vous ont interdit de fumer des cigarettes, n'est-ce pas ? Enfin, ils ne vous ont jamais interdit de fumer des cigarettes parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'à 8 ans, vous allez commencer à fumer une cigarette, ou à 6 ans même, 6 ans. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Mais je savais que c'était interdit. Je savais que je n'avais pas le droit de le faire. Et en réalité, lorsque j'ai désobéi, ce qui s'est passé, c'est que si, à part que j'ai eu une fessée, mais à part ça, il ne s'est rien passé d'autre. Si ce n'est que chaque fois qu'une cigarette se présentait, eh bien, je sautais sur l'occasion pour la fumer. Donc, ce n'est pas la désobéissance qui m'a rendu dépendant du tabac. C'est le fait d'avoir fumé. Et ça, n'est-ce pas, c'est le principe du péché. Et donc, c'est une fois que la désobéissance a été faite, c'est la consommation qui fait que vient s'installer le péché. La nicotine en moi a produit l'accoutumance, et puis ensuite, voilà, jusqu'à ce que je sois à 2 paquets par jour pendant plusieurs années dans ma vie. Aujourd'hui, c'est 0 depuis très très longtemps. Adam et Ève ont perdu la vie parce qu'ils ont consommé le fruit de la mort. Ils ont commencé à perdre la volonté confiante qu'ils avaient du fait de leur relation avec Dieu. Et alors ils ont été envahis par la peur. Et ils ont découvert graduellement que la mort les tenait captifs. L'humanité qui vient après Adam et Ève a hérité de cette mort, de cette captivité. Et c'est pour remédier à cela que Jésus est venu. Aujourd'hui, l'influence de Satan et de ses démons est partout dans le monde. Mais cette influence, et c'est cette influence que Jésus est venu lui contester, et c'est pour ça qu'il est venu pour regagner du terrain, définitivement. Ça n'en a pas l'air, mais le texte que je viens de lire dans Luc montre que Jésus est progressivement en train d'envahir le royaume de Satan pour y installer le royaume de Dieu. Et donc ce récit débute par une délivrance. Et ça se poursuit par une guerre, et ça se termine par un appel à l'unité. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Jésus donc impose à Satan son autorité et sa puissance. Et on le voit justement dans la délivrance de cet homme, dans la délivrance d'un démon. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Pour délivrer l'humanité, Jésus ouvre les yeux et les oreilles. S'il y a un syndrome dans l'humanité, c'est bien celui de l'aveuglement et de la surdité. Et aussi le fait de ne pas pouvoir s'adresser à Dieu, d'être muet devant Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a répété et répété ce genre de délivrance, pour prouver à l'humanité, mais aussi au monde des ténèbres, qu'il était là et que les choses étaient en train de changer, qu'il était en train d'installer le royaume de Dieu. Et donc Jésus manifeste son autorité et sa puissance dans le fait qu'il délivre les hommes et les femmes de tout ce qui les empêche d'accéder à Dieu. Parce que Satan a rendu les gens captifs. Captif de sa propre pensée, de ses propres plans, de ses propres envies. Et Jésus vient pour délivrer les hommes de cela. Jésus vient aussi pour installer l'autorité de Dieu et pour installer dans ce nouveau royaume. Donc la présence de Jésus provoque, on va dire, la panique dans le monde spirituel. Jésus vient et impose à Satan sa présence et aussi son planning. Parce que c'est Jésus qui va organiser la vie spirituelle du monde pendant ces années de son ministère sur la terre. Ce n'est pas Satan, c'est Jésus qui va organiser ce planning jusqu'à la croix. Jésus vient, il impose à Satan sa présence. Son planning est durant ce temps sur la terre. Jésus va engager un combat dont l'enjeu est celui de la possibilité du salut accordé à l'humanité entière. Jésus est venu pour que toute l'humanité puisse se détourner du mal pour se tourner vers lui. Mais pour un homme que Jésus va délivrer de la surdité ou de son aveuglement spirituel ou de son incapacité de parler, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui sont incrédules. Hein, on l'a lu, verset 16, d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme si ça ne suffisait pas de délivrer un homme. Personnellement, j'ai vu et j'ai entendu des personnes être guéries de maladies graves, des gens qui étaient au stade terminal, qui étaient intubés de partout, être guéris, complètement guéris, avoir demandé la prière, être guéris, d'autres délivrés de puissance démoniaque, d'avoir reconnu que Jésus était intervenu dans leur vie, pour ensuite les voir tourner le dos à Christ et partir. C'est tragique, n'est-ce pas ? C'est tragique. Mais il y a, n'est-ce pas, cette incrédulité qui est profonde parfois. Ça ne veut pas dire que c'est définitivement terminé, n'est-ce pas ? Au verset 20, on lit « C'est par le doigt de Dieu, c'est Jésus qui dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus met en avant la puissance de Dieu. C'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses. Il ne dépasse pas le rôle qui est le sien, mettre Dieu et sa volonté en avant. Jésus était revêtu d'humilité. Une humilité qu'il a portée depuis sa naissance. On a parlé d'une crèche avant qui était effectivement pour beaucoup, qui était une mangeoire. C'était un endroit en tout cas qui n'était pas destiné à recevoir des hommes, c'était un endroit destiné à recevoir du bétail. Mais il est né dans des conditions d'hommes, et peut-être moins que les hommes. Mais il a surtout montré qu'il était soumis à Dieu dans tout ce qu'il faisait pendant tout son ministère. Et ça, c'est un exemple. Et Paul lui-même l'exprimera plus tard, l'apôtre Paul, dans Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. L'apôtre Paul comprendra lui-même cette vérité dans sa propre chair, puisqu'après avoir demandé à trois fois à Dieu de le guérir, il aura pour réponse dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et ça, c'est un principe, n'est-ce pas, qui était un principe que Jésus a présenté à maintes et à maintes reprises dans son propre ministère. C'est un principe qui est complètement étranger au royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres présente la force et la domination comme étant la façon de procéder. Or, Jésus présente exactement l'inverse. C'est l'humilité et la faiblesse, l'amour immérité qui va permettre de remporter des victoires. Et c'est pas seulement les évangiles, mais c'est toute la Bible qui parle de ce principe-là. Et je vais vous en citer quelques-uns. Le principe, c'est que la puissance de Dieu ne se manifestera jamais dans la capacité et dans la sagesse des hommes, mais toujours dans la faiblesse des hommes. La puissance de Dieu, par exemple, se manifeste dans la stérilité de Rachel. Rachel était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle était tellement triste de ça qu'elle est, elle a dit à Jacob un jour, « Donne-moi un enfant ou je meurs. » Elle était proche du suicide, en réalité, tellement elle était désespérée. Et donc, elle a eu, au bout d'un certain temps, deux enfants, Joseph et Benjamin. Mais entre-temps, Dieu est intervenu d'une autre manière, et c'est elle qui a mis au monde, en fait, les chefs des tribus d'Israël. La puissance de Dieu se manifeste dans la solitude de Moïse, n'est-ce pas ? Qui, après avoir été élevé comme un prince, comme le fils de Pharaon, est devenu un vieux berger réfugié dans le désert pour fuir le Pharaon d'Égypte. Et c'est finalement un fugitif, bègue, qui a été appelé par Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. La puissance de Dieu se manifeste dans la crainte maladive de Gédéon, qui a été appelé à combattre un ennemi beaucoup plus fort que lui. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'un esclave prénommé Daniel, et c'est lui qui, en exil, sera le seul capable d'interpréter les rêves du roi de Babylone. La puissance de Dieu se manifeste par la vie de la reine Esther, une orpheline juive qui risquera sa vie pour prendre la défense de son peuple. La puissance de Dieu se manifeste dans la fragilité du caractère de Jonas, qui refuse de prêcher la repentance à des terroristes. Et Jonas a dû passer par le ventre d'un poisson avant d'être prêt à faire ce que Dieu lui demande. Je pourrais vous citer encore de nombreuses histoires comme ça. Dans le Nouveau Testament, Jésus était, je l'ai déjà dit, la démonstration et le témoignage de cela. Il était Dieu et a vécu comme un simple homme. Il s'est fait serviteur des hommes. Il s'est donné jour après jour et a accepté l'humiliation de la croix jusqu'à la mort. En Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée pleinement, de sorte que ce qui paraissait être à vue humaine l'échec d'un illuminé s'est trouvé être une victoire déterminante pour l'humanité entière. Comme Jésus, Dieu veut, par le Saint-Esprit, nous équiper de sa puissance. Mais pour cela, il nous faut passer par l'apprentissage de l'impuissance. À cet effet, Dieu nous a préparé des déserts dans lesquels il veut nous former à la faiblesse pour que la puissance de Dieu puisse s'exprimer en nous sans que cela ne ternisse sa gloire. N'est-ce pas, c'est dans les déserts que nous apprenons ce qu'est la vie. C'est dans les déserts, lorsque nous avons perdu tous nos repères, lorsqu'il n'y a plus personne pour nous aider, ou lorsque ceux qui nous aident s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus rien faire, lorsque nous sommes acculés contre un mur et que nous ne pouvons même plus nous retourner, lorsqu'il n'y a plus de porte de sortie, lorsqu'il n'y a plus de planche de salut, lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte en banque, lorsqu'il n'y a plus d'amis, lorsque même les parents ne vous comprennent pas, lorsque vos enfants se sont détournés de vous, vous êtes dans un désert. Et c'est là que les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, la bouche s'ouvre. Dieu peut parler. Vous pouvez parler à Dieu. Et il peut agir au travers de vous, en vous, à partir de là. Dieu a des déserts préparés pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas, on aime bien pointer les belles promesses de la Bible. Mais on n'échappera pas au désert. Jésus installe dans sa progression il installe l'unité dans le royaume de Dieu. On le lit au verset 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ? Donc Jésus annonce l'effondrement du royaume de Satan et la mise en place du royaume de Dieu. Et la preuve de ce nouveau règne, c'est le départ des démons. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, ce sont les démons. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, toutes ces choses. On lit dans Matthieu 4, verset 17, « Le royaume des cieux est proche. » Et dans le Luc 17, verset 20, Jésus annonce « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et ce n'est pas un royaume visible, ce n'est pas un royaume qu'on peut matérialiser, mais c'est un royaume qui est une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle, elle est rendue évidente par la façon dont les citoyens de ce royaume se comportent. Et la marque, c'est l'unité par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui unit les enfants du royaume de Dieu. Et dans Jean 18, 36, on lit, n'est-ce pas, quand Jésus est devant Pilate, il dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Parce que sinon, mes soldats auraient combattu pour moi. Le royaume que Jésus est en train de mettre en place n'est pas comme le monde de Satan, fondé sur la violence ou la domination, mais sur l'amour entre les frères et le service au prochain. Et c'est pour installer cela que Jésus a prié le Père dans Jean 17. Jean 17, c'est la clé, n'est-ce pas ? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité est la condition pour que le monde croie que Jésus a été envoyé par Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'Église de Christ, c'est la famille de Dieu. Et c'est l'unité des croyants par le Saint-Esprit qui est la marque de cette unité divine. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans Genèse, nous lisons la prophétie de ce qui est en train de se dérouler alors que Jésus est en là, sur la terre. Genèse 3, 15, vous n'avez pas besoin d'aller voir, c'est très connu, n'est-ce pas ? « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est un verset qui exprime la promesse de Dieu de vaincre le mal. Donc, tout de suite après que Adam et Ève aient péché, Dieu a dit ça. Et ça, c'est une promesse qu'il va vaincre le mal et restaurer la relation brisée entre lui et les hommes. Et il annonce la venue d'un sauveur qui sera issu de la femme et qui triomphera du diable et du péché. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ, qui est né d'une femme, Marie. Et c'est lui qui va écraser la tête du serpent, qui a été blessé au talon, c'est-à-dire qu'il a souffert sur la croix. Jésus vient, c'est lui qui écrase la tête du serpent, et c'est ce qu'il est en train de faire dans Luc. Quand il chasse les démons, à chaque fois qu'il fait des choses dans le spirituel, il est en train de donner des coups à Satan. Et Et lui est allé jusqu'à la croix. Il a été blessé à cause de la crucifixion. Donc nous savons que Jésus n'est pas venu pour faire concurrence au diable ou pour offrir une autre alternative aux hommes. Il est venu comme un conquérant pour anéantir la puissance de Satan et détruire ses œuvres. Et donc Jésus, pour qu'on comprenne ça, il a pris cet exemple de l'homme fort, au verset 21. « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. » L'homme fort, c'est le diable. Et sa maison, c'est le monde qui est sous son emprise. L'homme plus fort, c'est Jésus, qui prend autorité sur le diable et qui pille sa maison et lui enlève ses armes et distribue ses dépouilles. C'est-à-dire que toute l'humanité qui est sous sa coupe, qui est possédée par lui, eh bien Jésus enlève ça, lui enlève ça. Il prend la captivité captive, comme il est dit ailleurs dans la parole. Jésus libère aujourd'hui encore les hommes de la possession démoniaque et il annonce sa victoire définitive par sa mort et sa résurrection sur la croix. Dans Colossiens 2,15, on lit ce qu'il a fait lorsqu'il est monté à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est quoi les dominations? C'est quoi les autorités? Ce sont des puissances. Ça nomme des puissances démoniaques, des puissances qui travaillent pour Satan, qui sont organisées en domination, qui sont organisées en autorité, qui ont chacun des rôles spécifiques. Et Jésus les a dépouillées en triomphant d'elles. Par la croix. Dans Hébreux 2,14, on lit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le salut est accessible aujourd'hui grâce à l'œuvre de Dieu, grâce à l'œuvre de Christ sur la croix. La délivrance, c'est pour aujourd'hui. Grâce au doigt de Dieu. La liberté nous est acquise et c'est pour maintenant. C'est pas pour plus tard dans le ciel, c'est pour maintenant. Jésus dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et je m'arrêterai avec ces questions. Est-ce que ce matin, vous êtes libre? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vos chaînes ont été retirées? Est-ce que la vie chrétienne vous semble être un fardeau ou une aventure extraordinaire? Ce sont des questions auxquelles chacun d'entre nous, il nous faut répondre. Est-ce que nous sommes heureux aujourd'hui? On peut avoir des moments de joie, on peut avoir des moments de plaisir. Mais la question, ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'on est heureux, fondamentalement? Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes de nos vies, est-ce qu'au fond de moi, il y a une flamme? Quelque chose qui me dit, n'aie crainte, ne crains rien. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Tu es entre mes mains et c'est ça qui compte. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous pouvons bénéficier de cette œuvre que tu as accomplie pour nous. Seigneur, l'installation du royaume de Dieu dans lequel nous pouvons aujourd'hui déjà vivre. Seigneur, tu as vaincu la mort et tu nous as donné la capacité de vivre éternellement avec toi. Seigneur, pour tous ceux qui te reconnaissent comme étant leur Seigneur, leur Sauveur, tous ceux, Seigneur, qui regardent vers toi alors qu'ils sont, ils ont soif de t'entendre, qu'ils ont envie de te connaître et qu'ils te font confiance, Seigneur, tu les accueilles et, Seigneur, tu leur donnes ton amour et surtout tu leur donnes, Seigneur, le salut qui est promis à tous tes enfants. Seigneur, nous reconnaissons que tu es un Dieu magnifique, que tu es un Dieu puissant, Seigneur, et que Satan ne peut pas nous nuire. Seigneur, tu as vaincu la mort et tu t'es assuré, Seigneur, que nous puissions être délivrés de nos chaînes et que nous puissions te recevoir et vivre dans la joie, vivre dans la paix que donne l'Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni ce matin.